bienvenue à Dans la mer climatique sur les ondes de CHIZ 94.3. Je m'appelle Naomi et je serai votre animatrice pour la prochaine demi-heure. Je suis en compagnie de mes deux co-animatrices, Marie-Félix et Jeanne.
Allô!
Allô!
Donc, nous en sommes à notre deuxième émission. Alors qu'il y a deux semaines, nous avons enregistré notre toute première émission qui se voulait vraiment un épisode introductif, vraiment une présentation de qu'est-ce que c'est la justice climatique et les changements climatiques en général. Donc, si vous avez manqué notre premier épisode d'introduction et que vous êtes intéressé à l'écouter ou le réécouter, vous pouvez toujours nous réécouter sur Spotify ou sur le site Internet de Balado Québec. Maintenant, revenons à notre sujet principal. Donc, aujourd'hui, c'est notre premier épisode thématique et nous allons nous arrêter sur les positions des pays du Nord et du Sud par rapport au changement climatique. Donc, en fait, il faut comprendre que les pays en tant qu'entité sont aussi des acteurs à considérer dans les enjeux de changement climatique et dans la distribution des responsabilités par rapport à la lutte au changement climatique. Donc, ce qu'on veut savoir aujourd'hui, c'est si certains pays sont plus affectés par les changements climatiques que d'autres pays. Et si oui, est-ce que ça cause un problème de justice et comment? Et est-ce que certains pays ont plus de responsabilités que d'autres par rapport au changement climatique? Et est-ce que certains devraient en faire plus dans cette lutte-là? Bref, comment il faut évaluer ces questions-là de manière juste et équitable? Et avant de commencer dans le vif du sujet, j'aimerais juste faire un petit mot sur on veut dire quoi par pays du Nord et pays du Sud. En fait, c'est la même chose que de dire les pays développés et les pays en développement. C'est donc une manière de classer les pays du monde en deux groupes selon leurs critères de développement, ce qui permet en fait d'étudier les inégalités qui séparent les deux catégories. Juste dire justement que l'expression « pays développé » et « pays en développement » est un peu une expression désuète là, dans le domaine, mais... Bien, en fait, il y a quand même plusieurs critiques ou des remises en question sur l'utilité d'utiliser ce genre de catégorie-là pour classer les pays. Mais on va quand même l'utiliser aujourd'hui pour différencier les pays, pour en fait comprendre et, bien, en fait, et analyser les pays qui ont plus les moyens et les capacités de lutter contre les changements climatiques et ceux qui ont un peu moins de moyens ou la capacité. Donc, pays du Nord, pays du Sud, pays développés, pays en développement.
Tant qu'on n'utilise pas l'expression sous-développé, qui est beaucoup plus un peu désobligeante, là, ouais.
Oui, exactement. Donc, c'est juste une petite clarification à faire. Donc, maintenant, on commence dans le vif du sujet. C'est Jeanne qui va nous présenter ça.
En effet. Donc, aujourd'hui, là, ce dont on parle, c'est vraiment là, l'effort dans la lutte contre les changements climatiques puis la façon dont les États ne sont pas tous égaux face à cette lutte-là. Comme on l'abordait un peu la semaine dernière, je pense qu'on avait mis la table un peu pour ça. Donc, en la matière, là, il y a vraiment deux éléments qui sont incontournables. Donc, la capacité puis la vulnérabilité. Pour ce qui est de la capacité, nous, comment on l'envisage, comment c'est défini, en fait, c'est la capacité de faire face au changement climatique, mais aussi la capacité de contribuer à la lutte au changement climatique. Donc, dans le fond, la capacité de faire face, là, c'est soi-même en tant qu'État, là, dans le fond, c'est d'établir différents moyens pour contrer les impacts. Donc, on est vraiment comme dans l'adaptation, tandis que dans l'autre aspect, donc la capacité de contribuer à la lutte au changement climatique, on est plus dans l'atténuation, donc d'investir là, pour réduire ses émissions, par exemple, ou là, de venir en aide là, à d'autres pays qui pourraient avoir là, des difficultés économiques en la matière. Donc, vous l'aurez compris, la capacité, c'est lié à l'économie des pays. C'est rattaché vraiment au développement économique puis aux moyens là, qui sont disponibles là, en termes financiers. C'est sûr que souvent, on parle de PIB. Aujourd'hui, on va vraiment parler de moyens financiers puisque le PIB, c'est une mesure qui est quand même assez réductrice là, qui ne prend pas en compte toutes les catégories de ressources économiques qui sont disponibles ou non. Donc voilà, là, aujourd'hui, on va évacuer, par exemple, la notion de PIB là, de notre économie. Mm-hmm. Voilà. Donc, en ce sens, pour le moment, bien, vous l'aurez compris, la capacité, elle est entre les mains des pays développés, pays du Nord. Assez évident, je pense. Je crois que vous n'aviez pas besoin de moi là, pour comprendre le tout. Mais voilà. Deuxième aspect qui est important, la vulnérabilité. Donc, quant à elle, la vulnérabilité, c'est vraiment davantage avec la situation géographique des pays. Donc, c'est selon où vous êtes sur le globe, les conséquences des changements climatiques qui vont être vécues ne seront pas les mêmes, premièrement. Habituellement, là, on dit là, que tout ce qui est près, dans le fond, de l'équateur, tout ce qui est élien, et tout ce qui se trouve en altitude ou près des côtes, ce sont là, des zones qui sont habituellement plus à risque. Mais il y a vraiment, dans le fond, une constante, c'est vraiment l'équateur, là, à cause des changements de température qui sont plus fortement ressentis dans la région. Donc, voilà. Puis en plus, ce qui arrive, c'est qu'en termes d'adaptation, souvent les deux se combinent, capacité et vulnérabilité. Et c'est là que ça devient un peu là, un cocktail... Ben, pas explosif, mais un peu dangereux, c'est que les pays qui ont la plus petite capacité d'action sont également ceux qui se trouvent dans les régions les plus vulnérables. Donc là, c'est comme, on va avoir des conséquences encore plus grandes qu'ailleurs dans le monde, mais on aura encore moins de moyens qu'ailleurs dans le monde pour y faire face. Et c'est là, que l'enjeu de justice se construit. Donc, c'est le fait que les pays en développement et ou pays du Sud, selon l'appellation que vous préférez, là, se trouve comme dans une impasse et que là, sur la scène internationale, il y a des questions de justice, il y a des débats là, qui émergent par rapport à cette situation qui est très difficile à vivre. Je rappelle également qu'à ce niveau-là, on prend encore le principe de responsabilité aussi parce qu'évidemment, quand on vit des conséquences comme ça, peu importe le pays où on se trouve, ben, on cherche à savoir c'est qui le coupable, c'est qui est à l'origine des émissions qui causent les changements climatiques, c'est qui cause la situation dans laquelle on se trouve. Le verdict qui est tombé là, il y a déjà plusieurs décennies. Là, je pense qu'il n'y a aucune surprise ici aujourd'hui. Les pays développés sont identifiés comme coupables parce qu'ils ont entraîné le phénomène là, des changements climatiques par leur développement à partir des énergies fossiles, mais également le fait qu'aujourd'hui, ils demeurent les plus grands consommateurs d'énergie fossile habituellement là, sur Terre. Donc, c'est quand même... des responsables assez facilement identifiables, je vous dirais. Là, il n'y a pas de mystère là-dessus. Donc, Marie-Félix, où est-ce qu'on voit la vulnérabilité là, dans le monde en ce moment?
Oui. En fait, j'ai une belle carte devant moi, mais que personne ne peut voir en nous écoutant. Là. Donc, je vais essayer de vous résumer la belle carte. Là, mais en fait, les régions les plus vulnérables, c'est l'Afrique, le sud de l'Asie, les îles de l'Asie et du Pacifique, puis dans une moins grande mesure, l'Amérique centrale et du sud. Donc, il y a une firme qui se spécialise dans les analyses de risque qui s'appelle Maplecroft. Puis, en fait, justement, une belle carte. Puis, les 10 pays les plus exposés aux conséquences du réchauffement climatique, c'est le Bangladesh, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, Haïti, le Soudan, le Nigeria, la République démocratique du Congo, le Cambodge, les Philippines et l'Éthiopie. Donc, on remarque vraiment que c'est des régions, en fait, c'est des pays qui vont payer vraiment fortement le prix, mais qui n'ont pas les plus grandes capacités d'action. Puis, face à eux, les pays développés, qui ont des grandes capacités d'action, eux, sont pas... aussi vulnérables. Donc, on voit vraiment une question d'injustice à ce niveau-là.
En effet, je pense qu'on touche le cœur du problème. Je pense qu'on peut ajouter également, là, avec les pays qui ont été nommés, on parlait de capacité économique, de situation géographique. Malheureusement, il y a aussi un autre facteur là, qui s'ajoute, bon, qui est plus ou moins... étayé là, dans la littérature scientifique, mais le fait que ces pays-là se trouvent souvent dans des régions là, d'instabilité politique.
Ouais.
Donc, c'est encore plus difficile de gérer les changements climatiques quand vous n'avez pas là, les ressources administratives, donc une fonction publique là, qui est en mesure de mettre en place des programmes pour gérer le tout. Puis aussi, quand le territoire est très changeant, où il y a beaucoup, beaucoup de perturbations, c'est sûr que les changements climatiques sont quelque chose qui est vécu à long terme, que oui, ces pays-là commencent à vivre dès aujourd'hui. Là. Ils ont des difficultés reliées à ça dès aujourd'hui, mais ça reste qu'il y a des problèmes qui, dans la liste des priorités, se révèlent être plus urgents. Là, je crois que la guerre, par exemple, la violence, c'est quelque chose qui est beaucoup plus vécu, puis qui est visible, contrairement au changement climatique, puis qui donne l'impression que c'est plus prioritaire. Bien, ça l'est aussi. Ça l'est tout autant, en fait. Ouais. Et que ça va créer autant de difficultés. Puis c'est comme ça rajoute au cocktail qu'on parlait là, un peu plus tôt. Là. C'est comme une addition là, d'horreur, là, dans le fond, qui se combine pour les changements climatiques.
Mais qui aggrave les inégalités, là, justement, par rapport au changement climatique.
Oui, ouais. C'est ça. C'est que ça creuse encore plus l'écart, puis ça rend ça encore plus difficile. Puis c'est là qu'on parle effectivement de fracture nord-sud.
Ouais.
Donc, il n'y a plus de lien entre la situation des pays développés et la situation des pays en développement, donc pays du Nord, pays du Sud. C'est un différentiel là, puis des inégalités qui existent de par l'histoire, de par la géographie, de par l'économie, puis ensuite de par la situation politique. Donc, c'est vraiment là... quelque chose qui, on parle de fracture parce que pour le moment, c'est irréconciliable. On n'arrive pas à faire le lien entre les situations. Puis, ça pénalise évidemment les pays en développement parce que c'est eux qui vont être les premiers à se retrouver dans une situation extrêmement difficile. Puis en même temps, mais ça permet là, aux pays développés de conserver un peu cette avance, là, cette position avantageuse, parce qu'ils continuent à s'enrichir. Au final, avec cette faille, par exemple, on peut penser aux ressources naturelles, mais les pays développés continuent à profiter de cette instabilité-là pour aller s'approvisionner en ressources. Mais également, le fait qu'il y a autant une fracture, puis qu'il y a des difficultés là, à gérer la situation des changements climatiques dans les pays en développement, mais ça fait que les pays développés là, sont un petit peu, comment on dirait ça, voient les discours de responsabilité un peu être évacués là, de leurs priorités. Ils réussissent un peu à s'excuser de tout ça pour le moment, puisque c'est pour le moment dans les grandes COP, là, les grandes réunions là, en termes de changement climatique, c'est pas quelque chose qui est c'est quelque chose qui est demandé et abordé, mais c'est pas quelque chose sur lequel il avoue la culpabilité ou ont un désir là, d'agir en la matière. Puis ça se ressent autant dans l'adaptation que l'atténuation des changements climatiques. Parce que, dans le fond, là, les pays en développement, habituellement, n'ont pas les moyens de contribuer à l'atténuation des changements climatiques. Ouais. Puis ça, on le comprend. De toute façon, on va se le dire, c'est pas eux qui sont problématiques, c'est pas eux qui émettent le plus. Donc, c'est pas comme si ils étaient dans la liste de priorités, là, tout en haut. Non. Il n'y a pas vraiment de priorité à ce niveau-là. Puis sinon, par exemple, c'est eux qui vivent les plus grands défis d'adaptation, mais ils n'ont pas les moyens pour l'un ou pour l'autre. Donc, la question qui se pose, c'est comment on va gérer de manière globale la lutte au changement climatique, parce qu'au final, c'est quand même une problématique globale. Même si c'est eux qui, localement, vivent les plus grandes conséquences, ça reste que les efforts qui sont à déployer pour y faire face, ils doivent être faits à l'échelle planétaire. Puis, il faut prendre en compte ces disparités-là en termes de capacité, responsabilité, vulnérabilité. Et c'est là qu'on se demande comment on fait, dans le fond, pour prendre en compte cette fracture-là. Quand il y a très peu de reconnaissance là, de la part, par exemple, des pays développés là, de cette problématique-là, de cette facette de la lutte au changement climatique.
Oui, puis justement, c'est dans ce contexte-là que les fonds monétaires pour compenser les pertes et les dommages liés au changement climatique prennent toute leur importance. On en avait parlé un peu la semaine dernière, là, mais il y a entre autres le Fonds vert pour le climat qui avait été établi lors du sommet de Copenhague, donc la COP15 pour le climat de 2009. Donc là, on avait comme défi de financer massivement pour l'adaptation dans les pays les plus vulnérables au changement climatique, qui sont les pays avec le moins de capacité pour le faire. On n'a jamais rempli l'objectif à 100%. Puis sinon, comme on a parlé dans le dernier épisode, la COP27, on a quand même signé un accord sur le principe qui permettait justement de compenser pour les pertes et dommages. On ne sait pas encore si ça va être rempli. Ça va être probablement très difficile. Puis, en fait, pour s'inscrire dans un véritable effort de justice climatique, l'aide devrait pas se faire avec des prêts, mais seulement avec des dons. Puis ça, c'est une autre facette qui est importante d'ajouter parce que généralement, on le fait surtout avec des prêts qui ont même souvent de l'intérêt. Donc, de financer, d'aider en fait ces pays-là, mais avec des prêts qui ont de l'intérêt, c'est vraiment un cadeau empoisonné en fait. Puis, il faudrait vraiment que ce soit à 100% désintéressé en fait de juste donner de l'argent.
Mais c'est ça, puis si tu me permets, dans le fond, c'est quelque chose qu'on fait là, depuis les années 70-80 par le FMI, donc Fonds monétaire international, puis la Banque mondiale, c'est d'aider le développement des pays en développement à l'aide là, de prêts avec intérêt, qui, dans le fond, fait croître là, une dette incroyable. Dans le fond, les pays en développement actuellement là, ont des dettes nationales extrêmement là, lourdes à porter envers des organisations internationales comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, les pays développés. Puis là, dans le fond, on utilise à quelque part ces organisations-là, puis les pays développés, cette difficulté-là face au changement climatique pour accroître cette dette-là. C'est extrêmement malsain, mais aussi très dangereux comme mécanisme au niveau économique. Puis en plus, là, le problème, c'est que c'est les intérêts. Parce qu'au final, c'est pas obligé d'être sous forme de don en soi. Ça pourrait être, par exemple, sous forme de subvention. Mais ce qui est important, c'est la non-conditionnalité. Donc, dans le fond, là, c'est qu'il n'y a pas. C'est une subvention sans condition. Mm-hmm. Donc, une fois que l'argent est versé, on s'attend pas à avoir un retour d'investissement, si on veut.
Oui, exact.
Donc, pour répéter un peu les concepts importants, on a parlé de capacité, vulnérabilité, de responsabilité, de la fracture nord-sud et des fonds monétaires pour, comme le Fonds vert pour le climat, pour pallier à ces inégalités globales. Mais je pense que ça serait un bon moment aussi pour parler du fameux principe de responsabilité commune, mais différenciée. En fait, c'est quand même un principe clé dans notre sujet aujourd'hui. Un principe qui a d'ailleurs été reconnu à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 1992, aussi appelé le sommet de la Terre de Rio.
Mm-hmm. Ben oui, en fait, c'est justement c'est le principe de l'épisode, c'est vraiment un principe de droit international de l'environnement qui postule que les États ont tous des responsabilités d'agir, mais qu'elles sont réparties différemment. Donc, on différencie les responsabilités, en fait, en raison des inégalités entre les États, que ce soit pour des raisons économiques, comme on a parlé, mais aussi sociales et historiques. Donc, c'est pas tous les États qui se trouvent au même niveau, autant pour l'adaptation que pour l'atténuation des changements climatiques. Donc, c'est un moyen qui est aussi, en fait, une tentative parce que c'est difficile à réussir à atteindre, là, mais c'est un moyen de répartir plus justement les responsabilités parce que c'est justement, c'est pas tous les États qui sont égaux face à la crise. Puis, il y a des différences importantes entre, mettons, les États-Unis, la Chine et l'Haïti, par exemple. Donc, on voit vraiment qu'on permet un peu de classer les États selon leur capacité, mais aussi justement leur responsabilité historique. Fait que, par exemple, ces États-là ont autant, font vraiment face à l'urgence, autant d'agir pour lutter contre les changements climatiques, mais aussi pour se créer des moyens vraiment puissants pour éviter des conséquences vraiment importantes sur leur territoire. On pense entre autres à construire, par exemple, des digues pour la hausse du niveau de la mer et les inondations, mais d'autres infrastructures comme ça. Donc, En intégrant ce principe de responsabilité différenciée, ben on inclut le concept de pauvreté qui s'introduit en fait dans la lutte des changements climatiques, puis dans toutes les négociations qui entourent tout le débat en fait, puisque les changements climatiques et la justice climatique ne peuvent pas ignorer le principe de la pauvreté puisque c'est vraiment majeur, puis on peut pas l'ignorer puisque les capacités d'action des États sont en fait on peut le choix de considérer la pauvreté. Ouais.
D'ailleurs, il y a plusieurs formulations d'articles dans les différentes conventions qui font référence au principe là, que tu viens de nommer. Et d'ailleurs, voici quelques principes qui viennent de la Déclaration de Rio de 1992 pour démontrer justement les différences dans les responsabilités des pays du Nord par rapport à ceux du Sud. Mm-hmm. Donc, premier principe, c'est le principe 3, le droit au développement pour les pays. Principe 5, par exemple, la pauvreté. Le principe 6, qui est les pays en développement. En fait, ce principe fait référence au fait que les pays en développement et les plus vulnérables doivent avoir une priorité spéciale par rapport à la lutte au changement climatique. Et le principe 7, c'est la responsabilité commune, mais différenciée. Donc, vraiment, le principe... sur lequel on s'attarde en ce moment. Mais bon, à part ça, ça reste que concrètement, il y a peu d'applications de ce principe-là, en réalité, dans la lutte concrète au changement climatique. Donc, on se demande comment faire pour engager concrètement les pays du Nord dans cet effort de coopération avec les pays du Sud. Puis, comment faire balancer justement les responsabilités historiques des États et leurs risques. Par exemple, on pourrait prendre le cas de la Chine, justement, qui est un cas intéressant à étudier là, par rapport à sa responsabilité historique, mais aussi à sa capacité actuelle. Donc, si tu veux y aller, Jeanne.
Oui, c'est ça, mais si vous me permettez là, d'essayer de répondre à ces questions, j'insiste sur le mot « essayer », parce que...
c'est épineux, quand même.
Oui, c'est épineux, puis c'est difficile là, à décider là, qu'est-ce qu'on pourrait faire, mais bon. Donc, j'aurai le mot de la fin là, sur cet enjeu. Mais il est clair que la lutte au changement climatique, ça doit tenir compte de toutes ces différences qui deviennent de plus en plus là, importantes, mais variées aussi entre les pays du monde. Donc, Naomi le mentionnait, la Chine, par exemple. Donc, des pays qui se retrouvent là, dans ce qu'on appelle les pays émergents ou en transition. Donc, qui passent d'une catégorie à une autre, si on veut, puis qui se retrouvent à être des pays avec énormément de moyens économiques en termes global, mais qui sont d'énormes pollueurs, mais que quand on divise, par exemple, le PIB en par habitant, on se rend compte là, qu'on est à un niveau de pays en développement là, et non de pays développés. Donc, de là l'impasse, à partir de quelle mesure on détermine qui a une responsabilité dans quoi? Il y a ça aussi, hein? On le parlait un peu au dernier épisode, que science et politique, ça fait pas toujours bon ménage. Ben on a beau... On a beau le conseiller certaines mesures, mais ça reste que c'est un choix politique, puis ça reste un choix de valeur aussi, quel indicateur là, on décide de prendre. Mais bon, c'est ça. Donc, le fait, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes capacités, tout le monde n'est pas autant à risque, et il y a des responsabilités aussi qui doivent être différenciées entre les pays. Donc, notamment là, par la fracture nord-sud, mais il y a plein d'autres critères, mais c'est ce sur quoi on va se concentrer aujourd'hui. Puis c'est pour ça que je vous conseille là, la lecture des travaux, dans le fond, d'Alexandre Gaïevitch-Sayeg, donc professeur agrégé à l'Université Laval, à la Faculté des sciences sociales, département de sciences politiques. Bon, je le suggère parce que je trouve ses travaux très intéressants, mais bon, je dois avouer que je ne suis pas parfaitement neutre. c'est le directeur de l'Observatoire de recherche sur l'économie verte, donc l'observatoire pour lequel on travaille. Donc, évidemment, on a un biais là, en faveur de l'approche proposée. Mais dans le fond, ben, il y a plusieurs travaux là, qui font qui sont super intéressants. Plusieurs articles qui, dans le fond, essaient de faire le pont entre les principes, là, comme on les explique aujourd'hui, donc qui sont beaucoup plus abstraits, puis comment on les met en pratique. Donc, vous avez l'article « Justice in a non-ideal world » qui peut être intéressant, là, mais également le chapitre qui se trouve dans le « Routledge Handbook of Climate Justice » qui s'appelle « Climate Finance, Moral Theory and Political Practice ». Bon, évidemment, là, ce sont des publications scientifiques. Et l'anglais prédomine dans ce milieu, donc malheureusement, ce ne seront que des suggestions en anglais aujourd'hui. Mais en fond, ça explique là, comment on doit appliquer ces principes-là, mais également là, dans le 10 chapitre, je crois, on explique comment, dans le fond, les fonds nécessaires, d'où ils doivent venir, puis comment, à partir des principes, on peut là, opérationnaliser ça, puis calculer là, qui doit quoi à qui. Ce que je trouve particulièrement intéressant, donc une des publications là, prévoyait notamment là, l'approvisionnement du Green Climate Fund. Donc, dans le fond, le fonds, on l'a nommé un peu plus tôt. Là,
fonds vert pour le climat.
Fonds vert pour le climat. Donc, vous voyez, là, j'ai un petit biais anglophone ce matin. mais voilà. Donc, dans le fond, le but, c'est qu'on divise en principe de responsabilité puis de capacité. Donc, le fonds, le montant total, là, on est dans les milliards de dollars. Puis on doit, dans le fond, on divise la somme en deux, ce qu'on doit donner aux pays en développement. Une moitié est calculée à partir du principe de responsabilité historique. Donc, on calcule, là, les pays ont contribué à quel taux au changement climatique. Donc, quelles sont les émissions depuis 1992 qui ont contribué au changement climatique de chaque pays. Puis on fait, là, dans le fond, une proportionnalité, puis on calcule, dans le fond, sur le montant, combien ils doivent. Ensuite, pour la deuxième moitié du montant, là, on y va avec principe de capacité. Fait que le point, c'est que même si vous n'avez pas contribué au changement climatique, si vous avez les moyens d'y contribuer à la lutte, vous devez le faire, c'est une obligation morale, parce qu'au final, on est tous dans le même bateau. Hein. La planète, c'est un système fermé. on peut pas... Je sais là, que là, il y a plein de projets, là, aller sur Mars et tout, mais la vérité, c'est que on est tous pognés ici, là, donc il va falloir tous mettre du nôtre. Puis le principe de capacité, ce qui est intéressant, dans le fond, c'est qu'on calcule à partir du PIB par habitant. Donc, on détermine qu'à partir de tant de PIB par habitant, vous avez là, les moyens là, de contribuer à la lutte globale. Puis on calcule, encore une fois, avec une proportionnalité, là, qu'est-ce que vous pouvez donner. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir qui se retrouve dans quelle catégorie. Et là, évidemment, Canada, grand champion, on se trouve dans les deux catégories, mesdames et messieurs. On est autant responsable qu'on est capable de contribuer. Donc, petite pointe là, que j'envoie ici là, à nos gouvernements qui ne nous écoutent sûrement pas, mais si c'est le cas un jour... On l'espère. Mais voilà. Donc, je vous invite à consulter encore une fois notre page Facebook parce que je mettrai là, les 10 articles sur la page si vous voulez les lire. Puis, je vous remettrai là, le petit résumé là, de ce que je viens de faire pour pouvoir là, avoir un peu un aperçu, mais une base là, quand on va voir les. Puisque c'est présenté sous forme de tableau. Donc, juste.
Pour les vulgariser un peu.
Les vulgariser, mais aussi si vous n'êtes pas familier avec l'anglais, là, ce qui est. On est au Québec, c'est bien, ça se comprend. Et ben, je pourrais, là. Vous expliquer ça dans l'application.
Merci beaucoup, Jeanne. D'ailleurs, on salue Alexandre Gaillévic-Sayet, s'il nous écoute. Donc, c'est tout, en fait, pour ce segment, justement, d'explication sur les responsabilités des pays du Nord et du Sud par rapport au changement climatique. Maintenant, on serait au... on est rendu, en fait, au segment des actualités. Donc... Marc-Félix, qu'est-ce qui se passe dans le domaine des changements climatiques?
Oui, bien en fait, on a deux nouvelles encore cette semaine. Bien en fait, cette semaine, mais dans les dernières semaines. Donc tout d'abord, à la fin novembre, le gouvernement fédéral a annoncé un plan pour l'adaptation au changement climatique. Donc c'est la première stratégie canadienne pour l'adaptation au changement climatique, donc c'est quand même majeur. Puis c'est un fonds qui s'élève à 1,6 milliard de dollars qui vont être redistribués aux provinces et aux municipalités. Donc on s'entend que c'est les municipalités en particulier qui vont devoir trouver des stratégies d'adaptation, puis qui vont devoir faire face aux conséquences des changements climatiques au niveau beaucoup plus local. On pense entre autres aux inondations. Puis, c'est vraiment on s'adapte vraiment aux phénomènes comme les inondations, les canicules et les feux de forêt. On peut aussi penser justement à l'Ouest canadien qui connaît particulièrement beaucoup de feux de forêt. Puis, le gouvernement, en faisant son annonce, a aussi... en fait, non, c'est même pas ça. C'est l'Institut climatique du Canada qui a fait une étude qui indiquait que pour chaque dollar investi pour l'adaptation au climat, ben on économise entre 13 et 15 dollars à long terme. Donc, ce 1,6 milliard de dollars-là va vraiment nous retomber dans les mains, va nous retomber dans les mains beaucoup plus tard.
Si vous me permettez d'ajouter rapidement, le plan, la stratégie dans le fond canadienne d'adaptation a été proposée là, suite, dans le fond, là, à l'ouragan Fiona qui a fait des ravages là, dans les Maritimes, puis Terre-Neuve et Labrador. Donc, nos pensées vont vers ces provinces canadiennes. Mm-hmm. Mais à quelque part, mais on est content de savoir qu'on a une stratégie d'adaptation, mais ça reste que c'est un petit peu décevant de voir qu'il a fallu attendre là, que des provinces soient ravagées. L'île de la Madeleine également, oui. Je tiens à souligner. Ouais. Ça aurait dû être, c'est le genre de stratégie qui aurait dû déjà être en place là, parce qu'on le sait que ça va arriver de plus en plus fréquemment. Mais on espère là, qu'une partie de ce financement-là là, pourra aider là, à reconstruire là, les villages, les villes qui ont été touchées là, par l'ouragan.
Ouais. Oui. Et puis rapidement, il y a la COP 15 en ce moment?
Oui, ben là, c'est ça. En fait, on parle de biodiversité, donc c'est pas exactement sur notre sujet de prédilection qui est les changements climatiques, mais c'est quand même important de le mentionner. Donc, à Montréal, en ce moment, au moment qu'on enregistre, il y a la conférence des parties sur la biodiversité. Là, on est en train un peu avec les COP, là, mais là, c'est la COP 15, c'est pas la même chose que la COP 27 dont on a parlé dans les derniers épisodes. Donc, COP 27 parle de changement climatique. Puis la COP 15, c'est davantage sur la biodiversité. Donc, ils ont séparé. Puis, on a même une troisième qui est sur la sécheresse et la désertification. Mais ça, on n'en parle pas. donc, c'est à Montréal en ce moment. Puis, c'est important de mentionner quand même le lien entre le climat et la biodiversité. Donc, quand on a des écosystèmes qui sont en bonne santé, entre autres avec des forêts et des océans, bien, ça stocke mieux le carbone. Puis, en retour, limiter le changement climatique, ça permet de réduire le risque de disparition des espèces, puis dont leur protection est vraiment cruciale. Donc, c'est deux crises qui sont vraiment liées et qui sont autant urgentes. Donc, c'est très bien de les unir, en fait, puis d'en débattre. Comme la COP 27, on ne sait pas si ça va aboutir à des conclusions qui sont vraiment... dont on va être très heureux, mais on peut quand même souligner l'effort.
Donc, oui, considérer que ces deux crises urgentes là, qui sont liées, en fait. Et donc, il faut s'en occuper.
Oui. Puis on peut peut-être espérer, étant donné que c'est à Montréal, que peut-être ça aura plus de répercussions ici. Là, oui. Notre premier ministre du Québec est allé, là, justement, oui. dans les derniers jours. Donc, ce qui se fait pas tout le temps, habituellement, les COP, je spécifie, parce que... j'ai eu le commentaire après l'épisode suivant qu'on n'avait pas précisé qu'est-ce qu'était une COP. Donc, une COP, c'est une conférence entre les parties. Donc, habituellement, c'est les États, dans le fond, qui se rencontrent entre eux. Mais en général, là, dans le fond, c'est des fonctionnaires, des délégués qui sont envoyés.
Parfait.
Mais cette année, mais quand c'est vraiment important, on a des dirigeants à certaines occasions.
Oui, mais pas aux COP de la biodiversité.
donc, merci, les filles. Donc, c'est déjà la fin de notre émission qui portait sur les responsabilités des pays du Nord et du Sud dans les changements climatiques. Donc, petit rappel avant de terminer, si vous avez des questions, commentaires, suggestions, vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook dans la mer climatique et aussi par courriel à l'adresse dans la mer climatique @outlook.com. Donc, pour terminer, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de Dans la mer climatique sur les ondes de CHIZ 94.3. À la prochaine!
Bye!